RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, nous sommes avec Daniel Obono. Bonsoir.
Bonsoir.
Député La France Insoumise, NFP de Paris. L'Assemblée nationale a suspendu les débats sur la partie recette du projet de loi de finances 2025 pour se consacrer au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce que l'examen du projet de budget va pouvoir aller à son terme ?
Et nous le souhaiterions parce que nous nous retrouvons dans une situation extrêmement grave à cause des 7 années de malheur de macronisme qui ont mené à la situation où la France est en déficit budgétaire. Du point de vue même des néolibéraux, ce n'est pas le nôtre, mais il y a un échec total des politiques économiques menées depuis 7 ans qui ont vu le trésor public pillé par des milliards de cadeaux faits aux plus riches. Et c'est aujourd'hui à nouveau les plus modestes, les classes moyennes et populaires, que le gouvernement aimerait faire payer. Nous avons fait la démonstration lors des débats en commission sur ce texte qu'il était possible de lever près de 60 milliards de recettes nouvelles. C'est l'équivalent de ce que prétend chercher M. Barnier, mais en faisant d'autres choix, c'est-à-dire en faisant contribuer celles et ceux des plus grandes fortunes du pays, des plus grandes entreprises.
Mais qui sont déjà mises à contribution dans le projet de Michel Barnier.
Non, qui sont mises à contribution de manière très ponctuelle et très partielle, puisque dans les projets qui nous ont été présentés, ce sont à peu près les 2/3 de l'effort qui pèse sur les services publics, la fonction publique et la majorité des Français et des Françaises. Or, nous avons fait la démonstration, justement, dans ces débats en commission, qu'il était possible d'avoir un autre équilibre, beaucoup plus juste, de justice sociale et fiscale, en faisant contribuer celles et ceux qui ont beaucoup profité, quand même, pendant la crise. Juste un chiffre. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, la fortune des 500 plus riches familles de ce pays a doublé. Elle est passée de 500 à 1000 milliards. 1000 milliards. Les entreprises du CAC 40 n'ont jamais distribué autant de dividendes. Donc oui, nous pensons que les faire contribuer un peu plus et de manière pérenne permettrait non seulement de répondre aux besoins, aux urgences sociales, écologiques, mais aussi
Pour qu'on comprenne
répondre aux demandes budgétaires qui sont faites
aujourd'hui. Pour qu'on comprenne le processus, c'est donc la partie recette qui était en cours d'examen. Si cette partie recette du budget était écartée lors du vote à l'Assemblée, la partie dépense ne pourrait pas être examinée, on est bien d'accord.
Oui, on se serait dans une situation un peu problématique, mais c'est quand même de la responsabilité du gouvernement qui, d'abord, n'a pas voulu faire ce qu'il aurait dû faire, alors, de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire nommer très tôt Mme Lucie Castet du Nouveau Front Populaire. Nous avions tout prévu. Nous avions un budget, nous l'avions présenté pendant la campagne, nous avions un
budget
programme
très
macro.
Un budget très dépensier. Mais vous l'assumiez.
Un budget qui correspond aux besoins. Parce que nous pensons qu'il faut gouverner par les besoins, pas pour répondre aux fourches codines des agences de notation ou du FMI qui est dans une logique néolibérale dont on voit les conséquences. Parce que c'est important de le rappeler, si on est dans cette situation, c'est parce que M. Macron a été l'élève le plus zélé de l'école néolibérale et c'est ça qui nous a mis dans la situation. Donc, oui, nous avons fait le choix et c'est ce choix-là que les Français et les Françaises ont mis en tête lors de l'élection législative. De partir des besoins. On est dans une situation où les personnes qui dépendent de l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreuses. On est dans une situation où il y a 11 millions de pauvres dans notre pays. Vous avez vu la période de crue et d'inondations dont on sait qu'elles vont être de plus en plus fréquentes. Il y a une urgence climatique que l'on ressent aujourd'hui concrètement. Et donc, il faut répondre à ça. Et en fait, on a les moyens de le faire.
Mais
c'est
mais
un
vous
choix
l'avez
politique
dit.
De ne pas le faire. Alors, et nous avions un budget prêt.
Je reprends,
c'est M. Macron
je reprends
qui
le
a empêché
cheminement,
que nous puissions le présenter et le faire voter.
Je reprends le cheminement du texte. Donc, on imagine que le texte initial du gouvernement, finalement, si la partie recette n'est pas votée, c'est le texte initial du gouvernement qui sera examiné au Sénat. On peut supposer que c'est un scénario qui, évidemment, serait plus favorable à Michel Barnier. Est-ce que vous croyez que c'est actuellement l'objectif ?
Je pense que M. Barnier fait tout pour faire passer sa médecine de cheval, comme on dit, pour éviter justement d'être confronté à la représentation nationale, parce qu'en vérité, le bloc gouvernemental est minoritaire. Vous vous rappelez, on nous avait présenté le gouvernement Macron-Barnier comme celui étant le plus stable, pouvant le plus rassembler. Ils ont mis ensemble des gens qui, en fait, sont des mercenaires, ce sont les perdants de l'élection, et qui n'avaient aucun programme commun, aucun accord, en fait, sur le fond.
Un gouvernement de Jessica Stein n'avait aucune assurance de stabilité non plus, vous savez.
La moindre des choses en démocratie, c'est au moins de permettre à celles et ceux qui sont arrivés en premier, pour lesquels les Français et les Françaises encore ont massivement voté, pour que nous puissions présenter un gouvernement, présenter un budget, et ensuite, la représentation nationale, bien sûr, aurait eu le choix de décider si elle pense que, en faisant plus de justice fiscale, on répond aux enjeux d'intérêt général ou pas. Et il y aurait eu un débat budgétaire, mais chacun aurait dû se positionner sur nos propositions. Mais je tiens à rappeler que la responsabilité des difficultés actuelles, elle repose sur Emmanuel Macron et aujourd'hui sur le gouvernement qui aujourd'hui ne tient et n'arrive à empêcher les mesures de progrès social que nous proposons que grâce au soutien du Rassemblement national qui joue le rôle de béquille de M. Macron. Et là, c'est la vérité des prix. On voit pour qui ils défendent les intérêts, c'est pas ceux du peuple.
Oui, à propos du Rassemblement national, justement, si finalement il y a une procédure de 49-3, vous déposerez une motion de censure. Dans cette hypothèse, dans ce scénario, est-ce que vous espérez que les députés du Rassemblement national votent votre motion de censure ?
D'abord, nous déposerons une motion de censure s'il y a 49-3, mais s'il y a aussi 47-1. Vous savez que c'est une des mesures qui permettrait de contourner là aussi le vote.
C'est un raccourcissement du temps de débat.
Voilà. Et donc, ça permettrait là aussi de piétiner la représentation nationale. Et là, et dans ce cas, quand nous présentons une motion de censure, nous disons, à la fois sur le fond et sur la forme, mais aussi sur la forme, c'est important, que les députés doivent se rappeler les raisons pour lesquelles elles et ils ont été élus. Et donc chacun doit en conscience considérer que la représentation nationale peut être bafouée ou pas, que le vote des Français et Françaises peut être bafoué ou pas, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on contourne la souveraineté nationale. Et donc, on verra à ce moment-là ce que feront...
Ce que je vous demande, c'est si vous le souhaitez. Est-ce que vous le souhaitez ?
Nous souhaitons faire tomber un gouvernement
qui refuse de faire votre motion de censure.
De faire
la conséquence logique, c'est ça.
Non, mais ce n'est pas une conséquence logique. Il y a, vous savez, d'autres députés dans cette assemblée.
Eux, c'est le premier groupe.
Il y a notamment des députés de l'ancienne majorité qui ont exprimé quand même un certain distance avec
le RN est le premier groupe à l'Assemblée. 125 députés.
Le nouveau Front populaire est la première force.
C'est un intergroupe, si on parle de groupe.
Voilà, mais bon, en termes de
Front parlementaire... Oui, mais enfin, a priori, le Front populaire voterait comme un seul homme. Enfin, à peu de choses.
Oui, mais écoutez, après, chacun est élu de ses votes, mais il faut être cohérent avec son positionnement. Mais ça éclairait peut-être les choses aussi, de savoir qui est la véritable opposition et qui continue à faire la béquille du gouvernement. Parce que vous avez raison, jusqu'à présent, ils ont sauvé Macron à plusieurs reprises en repoussant les mesures de justice sociale que nous proposons.
Si le RN votait votre motion de censure, est-ce qu'à vos yeux, il rentrerait dans l'arc républicain ?
Moi, je ne crois pas que le RN soit, de quelque manière que ce soit, dans l'arc républicain. C'est un parti qui promeut des idées que je considère racistes et xénophobes. On a eu encore des démonstrations à l'Assemblée nationale à de nombreuses reprises. Après, ils sont élus et donc les députés ont leur fonction. Non, mais ce n'est pas une question de servir. Ce n'est pas nous qui les avons élus.
Oui,
ce n'est pas nous qui avons voulu qu'ils soient aussi nombreux.
A priori, c'est pas vous qui avez voté pour eux.
Ils votent. Et ils votent dans un sens où, par contre, les électeurs et les électrices, ceux peut-être qui croient, je pense de manière fausse, que ces gens-là défendent le peuple, défendent les petites gens, les votes sont aussi la vérité des prix. Et on le voit, jusqu'à présent, ils n'ont voté que pour empêcher la justice fiscale et à chaque fois sauver les cadeaux que Macron a fait pendant 7 ans aux plus gros patrons, pas aux petits boulangers, pas aux petits artisans, mais aux entreprises du CAC 40.
On ne va pas s'attarder sur le PLFSS, projet de loi de la sécurité sociale. On sait qu'il y a deux mesures controversées qui sont à l'étude, notamment les jours de carence pour les employés de la fonction publique et également la suppression d'un deuxième jour de congé. Mais parce qu'il y a d'autres sujets que je voudrais qu'on puisse aborder, notamment la question de l'accueil physique, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui vous accueille dans les services publics. C'est une idée que vous avez, un projet que vous avez défendu, une proposition de loi plus exactement, lors de la précédente législature. Où en est le cheminement législatif de ce texte? Est-ce que là aussi, ça a des chances de suivre son cours et... Parce que ça avait été adopté
à l'Assemblée. Oui, effectivement, il y a eu une majorité pour soutenir ce texte il y a presque un an, puisque c'était en novembre dernier. Et en vérité, c'est vraiment en lien avec les débats que nous avons sur la sécurité sociale. Vous évoquiez la fonction publique et les attaques du gouvernement à cet endroit, parce que, en vérité, l'accueil physique dans les services publics, c'est d'abord des fonctionnaires, des agents et des agentes pour qui voir les usagers répondre à leurs demandes, à leurs questionnements et l'essence même de leur travail. Et quand on parle de la perte de sens, quand on parle de la maltraitance pour les agents et les agentes, c'est aussi à travers l'introduction d'une dématérialisation tous azimuts. Et effectivement, cette proposition de loi qui est soutenue par de nombreuses associations, des organisations syndicales, a été votée à l'Assemblée. Elle attend maintenant d'être prise par le Sénat. Et je renouvelle mon interpellation aux sénateurs et sénatrices qui ont l'opportunité de l'inscrire dans leur débat, de la voter. 91% des Français et des Françaises sont favorables à cette mesure parce que c'est un obstacle pour l'accès aux droits de millions de nos concitoyens, le fait que tout soit dématérialisé. Il faut de la dématérialisation, c'est très utile, mais pour beaucoup de gens, pas juste les personnes âgées, vous avez les personnes en situation de handicap, les personnes en électronisme, c'est-à-dire qu'ils ne manipulent pas bien Internet. Beaucoup de gens dans notre pays n'ont pas de tablette. On a 22% de la population qui n'a pas les outils Internet adaptés. Donc en fait, ça fait beaucoup de gens. Ouais. Et c'est l'essence même du service public.
Et vous parlez de l'accueil physique, donc c'est-à-dire avoir quelqu'un en face de soi quand on se rend dans un service public, on pourrait y ajouter l'accueil humain au téléphone. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, énormément de services publics, lorsqu'on les appelle, on est confronté, ou même des grandes entreprises d'ailleurs, privées, on a affaire qu'à des plateformes téléphoniques automatiques. Oui. Et c'est parfois très décourageant, en fait, pour
effectivement.
Lancer une démarche.
Et c'est notamment, ça a été l'objet d'une enquête de la Défenseure des droits qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui avait formulé la demande de permettre un accès physique en parallèle de toutes les mesures dématérialisées, parce qu'ils ont fait une enquête, justement, sur les réponses des plateformes téléphoniques dans les services publics, et un grand nombre d'appels n'aboutissent pas, ou alors... aboutit à des mauvaises réponses, justement parce qu'il n'y a pas ces moyens mis pour que les agents puissent traiter correctement les demandes des usagers et des usagères. Et donc, c'est un vrai problème concernant l'accès aux services publics, à la fois dans des territoires ruraux, ultra-périphériques, où cet accès est particulièrement difficile, mais aussi dans des villes. Moi, je suis députée d'une circonscription très urbaine.
À Paris.
Mais là, aussi, on retrouve des problèmes comme ça, transversaux. Et donc, on a l'opportunité, les sénateurs et sénatrices auront l'opportunité, j'espère bientôt, de régler ce problème.
De réhumaniser les services publics, c'est un peu l'idée.
Voilà, ce que je pense que des millions de Français attendent.
Le Parlement israélien a voté hier soir à une très large majorité en faveur d'un projet de loi qui interdit les activités de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. De nombreux pays, mais aussi l'ONU, l'OMS, ont condamné cette décision. Quelles conséquences va avoir cette mesure si elle est effectivement mise en œuvre, selon vous ?
C'est de l'avis de tous les observateurs et observatrices, de toutes les agences de l'ONU, mais de défense des droits humains, des organisations non gouvernementales et des États aussi, cette décision va empirer une situation qui est déjà catastrophique pour des dizaines de milliers de Palestiniens et Palestiniennes, que ce soit celles et ceux qui sont déplacés. On a 2 millions de personnes qui, depuis un an, sont déplacées d'un bout à l'autre. On a entre 40 et 186 000, dans les estimations les plus importantes, de morts suite aux bombardements et suite aux actes du gouvernement et de l'armée israélienne. Vous avez aussi des populations dans les territoires de Cisjordanie, etc., qui vont être encore plus impactées, alors même que tout le monde alerte sur les crises nombreuses, sanitaires, humanitaires, la famine, etc., etc. Donc on est dans une spirale infernale et il est plus que temps que les États qui prétendent être des exemples en matière de défense des droits humains, des exemples en matière de respect du droit international, agissent enfin Et ce ne sont pas juste des mots, ce sont des actes très clairs pour qu'il y ait un cessez-le-feu,
Daniel Obono,
pour que le gouvernement israélien cesse non seulement ses exactions contre les Palestiniens, mais aussi de remettre en cause les agences internationales qui sont importantes pour tout le monde, en vérité.
Vous le savez, Daniel Obono, depuis, en particulier depuis le 7 octobre, la France insoumise est régulièrement accusée par un certain nombre de personnes de flirter avec l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, aux Français juifs qui se sentent menacés, qui se sentent en danger, particulièrement depuis qu'il y a cette augmentation terrible des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que nous condamnons tous les actes racistes, antisémites, qui visent nos concitoyens et concitoyennes de culture, de confession juive, mais également dans le reste du monde, parce que c'est un phénomène qu'on a vu ailleurs. Et nous faisons tout le temps, toujours, et je crois que c'est le cas, pas simplement pour la France insoumise, mais pour toutes celles et ceux qui soutiennent la lutte du peuple palestinien, nous faisons toujours la différence entre ceux qui commettent des actes considérés comme des crimes de guerre, considérés comme un risque de génocide en Israël, le gouvernement de M. Netanyahou, et nos concitoyens et concitoyennes, des personnes de culture de confession juive qui n'ont rien à voir avec cela. En Israël même, des citoyens de toutes les confessions se mobilisent contre ce gouvernement. Et donc, nous assurons de notre soutien et de notre solidarité toutes les personnes qui seraient visées des racistes, parce que pour nous, c'est le racisme est un outil de division qui affaiblit justement nos luttes communes. Et donc, nous avons toujours été clairs, et il est vraiment dommage que cette accusation soit portée pour une raison très politicienne, pour disqualifier notre mouvement et le combat légitime pour la Palestine.
Il nous reste guère plus d'une minute.
Nous ne faisons aucune concession de quelque forme que ce soit, ni au racisme antisémite, ni aux va-t-en-guerre qui sont en train de massacrer les Palestiniens.
Il nous reste à peu près une minute. Emmanuel Macron, qui est en visite au Maroc, a dit il y a quelques heures, c'était devant le Parlement marocain, je le cite, « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je crois qu'il y a une opération de la part d'Emmanuel Macron de retrouver les faveurs du pouvoir marocain après un certain nombre de péripéties diplomatiques et qu'il devrait là aussi se garder d'affaiblir ce que sont aujourd'hui les positions internationales, du droit international. Et ses propos ne correspondent pas à la position de l'ONU sur cette question qui est en faveur d'une résolution diplomatique et en reconnaissant en fait les aspirations de toutes les populations concernées. Donc je crois que là aussi, malheureusement, la parole de la France depuis Emmanuel Macron et notamment depuis un an
terminé.
A été particulièrement affaiblie et c'est bien dommage.
Merci Daniel Obono, merci d'avoir accepté cette invitation ce soir. À très bientôt, à la semaine prochaine.